Eh bien, bonsoir, chers auditeurs. Je ne sais pas si le père Michel Viaud doit intervenir. Il doit intervenir maintenant. Je ne sais pas si il est en ligne. Pas encore. Alors, écoutez, chers amis de Radio Courtoisie, bonsoir. Et alors que l'on se demandait si nous n'étions pas en automne, la chaleur de l'été est enfin arrivée. Et Nathalie et moi et mon invité, nous sommes heureux de vous retrouver au frais dans le très beau studio de Radio Courtoisie. Alors bientôt, la bienfaisante chaleur de la nuit nous enveloppera et je pense à tous ces pèlerins qui, ces jours-ci, ces jours de Pentecôte, ont dormi à la fraîche ou sous la tente, ou à la belle étoile. Et ils sont de plus en plus nombreux à marcher et à se rendre sur les lieux de pèlerinage, et cela fait chaud au cœur. Vraiment, vraiment, il se passe quelque chose dans l'Église et dans le monde de la foi. Alors j'ai demandé au père Michel Viaud, qui est bien connu des auditeurs de Radio Courtoisie, puisqu'il est lui-même patron d'émissions sur la radio, je lui ai demandé de nous dire ce qu'il en pense. Alors, père Michel Viaud, est-ce que vous êtes à l'antenne maintenant? Pas encore. Eh bien, nous lui donnerons la parole dans 2, 3 minutes. Alors, en attendant, chers auditeurs, j'ai ce soir un invité tout à fait prestigieux, puisque c'est un pionnier. Un seigneur des médias, un créateur, un aventurier de la radio, de la télévision, des médias. Et il me fait le plaisir de venir dans cette émission et c'est un honneur pour nous, pour moi. Je le remercie. Gérard Carrérou, bonsoir,
Bonsoir.
bonsoir. Alors c'est la Providence qui nous a réunis. Et vous êtes un ami de ma sœur, et lors de vos séjours aux États-Unis, elle est votre voisine. Et il y a quelques jours, voilà qu'un ami m'invite à dîner chez une autre amie, et vous étiez là. Et tout de suite, le courant est passé entre nous, et au cours de la conversation, votre parole m'a touchée, et l'évocation de votre retour à la foi fait que je vous ai invité ce soir dans le monde de la foi et je vous remercie d'être venu.
Et je vous remercie de m'avoir invité, Nicole.
Ah oui.
C'est aussi un honneur pour moi. Je vous remercie d'avoir dit que c'était un honneur. La seule chose avec laquelle je ne suis pas d'accord avec vous, c'est que vous m'avez présenté comme un seigneur. Je ne suis pas un seigneur, alors des médias si on veut, mais je ne suis pas un seigneur, je suis un homme du peuple. Je suis, si vous voulez, un de. Alors, puisqu'on parlera sans doute un peu de religion, je suis un de ces chrétiens ordinaires, comme on en faisait des milliers et des centaines de milliers dans l'ancienne France, et voilà. Et je n'ai pas quitté jamais cette. C'est la religion de mon grand-père, de mes grands-pères, et j'ai toujours été un catholique et un chrétien. Simplement, bon, dans ma vie, ma longue vie, puisque j'ai 84 ans, j'ai par moments été un peu plus régulier, comme on dit dans l'Église, ou à d'autres moments un peu plus irrégulier dans mon assistance aux messes ou autres sacrements. Mais pour le fond des choses, j'ai toujours été, depuis ma plus tendre enfance, j'ai été comme mon père, comme mon grand-père, comme tous ces paysans de l'Aveyron qui pendant des siècles. L'Aveyron, c'est un département pas très bien connu, mais c'est un département qui était longtemps le plus chrétien de France. Il
Ah.
fournissait, je me souviens, comme on me disait ça quand j'étais enfant, dans l'Aveyron, c'était là qu'il y avait le plus de curés et de religieuses qui prononçaient leurs vœux dans tous les départements de France. Et c'est aujourd'hui encore un département vraiment catholique. Enfin, c'est vraiment l'archétype de ces départements français, où il y a des croix partout, des églises partout, où tout vous rappelle la religion et tout vous rappelle cette France magnifique et chrétienne.
Ah oui. Et l'Aveyron, c'est l'Aveyron? Je crois qu'on roule un peu les airs dans ce.
L'Aveyron, oui, bien
Oui,
sûr, bien sûr.
vous
Il y a le
avez eu l'accent?
patois. Non, alors moi, j'étais parisien, j'allais dans l'Aveyron pour les petites vacances. Mes parents travaillaient, mon père travaillait, et bon, il me mettait dans le train. Il y avait un train tous les ans à la gare d'Austerlitz qui emmenait ce qu'on appelait les petits Rouergas, parce que l'autre nom de l'Aveyron, c'est le Rouergue. C'était la province du Rouergue sous l'Ancien Régime. Et donc le train des Rouergas m'emmenait et j'allais. C'était mon bonheur parce que j'allais retrouver mes cousins et cousines dans l'Aveyron. Alors, au bout de quelques semaines avec eux, bah, il m'arrivait de temps en temps d'apprendre un peu de patois, mais je ne peux pas dire que je parlais couramment le patois aveyronnais quand même.
Alors moi je voulais vous demander justement quelles étaient vos origines, et eh bien vous venez de nous le dire. Alors votre maman, votre
Alors,
alors
ah, ça
vous
c'est
avez parlé des grands-pères et des grands-mères,
oui, c'est
parlez-nous des
intéressant
grands-mères.
parce que mon père était dans une lignée de cathos. Ils ont toujours été catholiques. Il est allé à l'école religieuse, l'école de la Rochefoucauld, près du Gros Caillou, à Paris. Donc, du côté de mon père et la ferme familiale, la ferme dans l'Aveyron, je me souviens encore de mon arrière-grand-mère qui célébrait chaque fête religieuse. Enfin bon. Mais du côté de ma maman, c'était différent. Ma maman était bourguignonne et elle venait d'une famille qui n'était pas du tout religieuse. Son père, qui était mort assez jeune, n'était pas catholique. C'était plutôt, à l'époque, on aurait dit, c'était plutôt un anarchiste. Anarchiste du 19e siècle, presque. Et maman n'a jamais été dans la religion. Mais elle s'est mariée avec mon père, évidemment, à l'église. Et elle a eu la. Elle avait beaucoup de mérite, ma mère. Et elle a eu l'intelligence de dire, bon, j'ai épousé quelqu'un qui est un chrétien, qui croit, on va élever notre famille dans cette orientation. Et elle s'est toujours. Mais pour autant, elle n'est jamais devenue, elle n'a pas fait semblant de devenir une catholique, mais elle a accompagné la famille qui était une famille catholique.
Et elle allait à la messe.
Et pas souvent.
Pas souvent.
Pas souvent. Non, non, je vous dis toutes les choses justes. Non, pas souvent. C'était pas son truc, la messe.
Alors, moi, je me disais qu'on ne devient pas l'homme des médias que vous êtes par pur hasard. Alors, vous avez parlé un peu de votre enfance. Donc, vous étiez à Paris, vous?
Oui, moi j'étais à Paris
Vous
parce
étiez.
que mon grand. Alors, encore une petite chose de mon enfance et de mes racines, si vous voulez. L'Aveyron, c'était un pays où il y avait, curieusement, il y avait des fermes, pauvres en général. C'est un pays assez pauvre. Et il y avait aussi des mines. Depuis Napoléon III, il y avait un bassin houiller dans l'Aveyron. Les gens ne le savent pas vraiment, mais Napoléon avait créé des villes comme Decazeville, qui existent encore, Decazeville, Grand Sacre. C'est des endroits où on avait des mines de charbon. Et moi, j'avais tous mes cousins, ils travaillaient. Ils étaient à la fois paysans le matin et à la mine l'après-midi. C'était une sorte d'économie mixte, si vous voulez, paysans et travailleurs à la mine. Mais c'était l'époque où on transportait encore le minerai de charbon dans des tombereaux avec des chevaux. Moi, c'était mon bonheur. J'avais 10 ans. On allait dans l'écurie jouer avec mes cousins. Et puis voilà. Ma jeunesse dans l'Aveyron, c'était ça. Et j'ai découvert en même temps, parce que mes cousins y allaient, eux, travailler, l'esprit de la mine. Et quand j'ai vu, par exemple, je fais un peu, je change de pays, si j'ose dire, mais on est toujours dans la mine. Quand j'ai vu ce week-end l'extraordinaire manifestation des Lensois après leur victoire de football, quand ils ont chanté la chanson des corons. Moi, les corons, j'ai aussitôt eu la larme. Les larmes ont mouillé mes yeux parce que c'était cette vieille culture de la mine. Et pourtant, le Lens, c'est le nord de la France. Nous la verrons, on était plutôt dans le pays cathare, dans le sud. Et malgré ça, on avait en commun, si vous voulez, cette France-là. Évidemment, elle a disparu parce que les mines
Il
ont
y avait des
fermé.
corons aussi.
Oui, les corons, bien sûr. Quand Bachelet a créé cette merveilleuse chanson, je ne sais plus quand c'était, dans les années 80, bon, toute personne qui avait dans sa famille quelqu'un qui avait connu la mine, et la mine et ses beautés, la mine et ses dangers, la mine et la silicose, la mine, enfin tout ce que ça voulait dire, l'industrie minière a été au cœur de la construction et ensuite, après la Deuxième Guerre mondiale, de reconstruction de la France.
Oui. Alors je crois que nous avons maintenant Je vais prendre le casque. Si vous voulez prendre le casque aussi.
Oui, je l'ai.
Voilà. Mon père, vous êtes là?
Oui, bien sûr, oui.
Ah, bon. Alors, nous sommes dans le studio, Nathalie et puis Gérard Carrérou.
Bonjour, mon père.
Ah, oui. Bonjour, monsieur Carrérou. Je vous salue, je vous écoute souvent et je vous apprécie.
Merci
depuis longtemps.
Merci, mon père.
Je crois que c'est réciproque. Puisque lorsque j'ai annoncé, lorsque j'ai annoncé à Gérard Carrérou que vous seriez avec nous, eh bien, il était content.
Absolument.
Alors voilà. Donc, nous sommes heureux ensemble. Alors je voulais, mon père, je faisais tout à l'heure allusion à ces mouvements qui dans l'Église font qu'il y a des pèlerinages de plus en plus importants, de plus en plus nombreux, qu'il y a des baptêmes, qu'il y a tout un vent, un souffle nouveau. Dites-nous un peu ce que vous pensez de ce mouvement.
Ben écoutez, moi je peux faire la comparaison, parce que étant né en 1944, j'ai vu dans ma prime jeunesse les églises pleines, et puis je les ai vues se vider. Et maintenant, pas loin de mourir, je les vois se remplir.
Avant de mourir,
et donc, j'ai quand même 82 ans. Donc
mais nous mourrons tous.
Et
mais
vous savez,
vous avez le temps d'être heureux.
Cher ami, vous savez très bien que j'ai été très malade.
Voilà, oui.
Donc je remercie Dieu déjà de me permettre de voir cela. Oui. Parce que, voyez-vous, je suis né sous un grand pape, Pie XII, et si je mourrais sous un grand pape, quel est Léon XIV. Et puis, je vois les églises se remplir, et avec ces pèlerinages, mais évidemment, tout mouvement important, et là, il est important, hein, parce que c'est une affaire qui, c'est pas un feu de paille, ça fait 4 ans que ça dure, hein, l'augmentation. Je la vois. Parce que je suis toujours en paroisse, même à la retraite, je ne veux pas m'arrêter. Parce que j'estime que si Dieu m'a donné ce sursis, c'est pas pour que j'abandonne ce que j'ai promis de tenir jusqu'à la fin de mes jours. Donc je le sais. Mais je vois que, d'abord, ceux qui reviennent sont très exigeants, ils ont raison, et qu'il y a aussi, malheureusement, un certain nombre de divisions dans l'Église catholique qui vont en se durcissant. On aurait pu croire que les problèmes que nous pose ce monde moderne et puis les évolutions futures, le problème tout simplement de la paix, hein, qui est quand même gravement menacé en ce moment, et ces menaces, elles vont laisser des traces qui vont nécessité des unions. Je n'ose même pas parler d'union nationale, mais enfin, d'union pour réparer tout le mal qui a été fait en France ces 20 ou 30 dernières années. Surtout les dernières années, on s'est laissé quand même complètement aller. Le problème, n'est-ce pas, c'est que les catholiques reprennent, bien sûr. Mais ils sont divisés. Vous voyez, il va y avoir le 1er juillet, je vois encore, j'ai reçu ce matin la lettre de la Fraternité Saint-Pie-X, j'ai pu la consulter, j'ai vu que le nom des gens qui vont être ordonnés évêques, sans que le pape ait eu son mot à dire. Donc voilà des gens qui, pour la deuxième fois, la première fois c'était en 1988, et là maintenant, c'est en 2026. Donc, qui pour la deuxième fois retombe dans la même erreur.
Il recommence.
Ça s'appelle des relapses. Bon, ils savent très bien qu'ils encourent l'excommunication, la taille sentencier. Bon, automatique. Ce qui peut d'ailleurs, moi, me poser, voyez-vous, un problème sur cette chaîne que j'aime bien, puisque je vous réponds ce soir sur Radio Courtoisie. Mais mon émission du dimanche matin, le libre journal de Lumière et d'Espérance, Et pas juste après la messe qui est diffusée de Saint-Nicolas du Chardonnay. Alors, j'ai dit tout de suite que je n'ai absolument rien, au contraire, contre la messe en forme ancienne. Je la célèbre moi-même quand c'est permis et quand on me le demande. Mais là, je ne pourrais pas entamer une émission après une messe qui sera certes valide, mais illicite, et le fruit de l'opposition à la volonté du Saint-Père. Vous comprenez ?
Oui.
Ça pose un problème. Alors, il faudra que la chaîne choisisse, mais je tiens à le dire dès maintenant pour nos auditeurs. Que voulez-vous ? Moi, j'ai été ordonné prêtre dans l'Église catholique en promettant d'être obéissant à mes supérieurs. Mes supérieurs, ce sont, bien sûr, c'est mon évêque d'incardination et ses successeurs, mais cet évêque-là, il n'a de pouvoir que dans la communion avec le Saint-Père, avec le Pape. Et que par conséquent, je ne peux agir et parler religion ou parler de tout ce que vous voudrez, mais avec quand même une dominante religieuse, puisque c'est bien pour ça qu'on peut venir, que dans le cadre de... qu'avec des gens qui sont tout de même dans la communion du Saint-Père. Or, imaginez ce qui va se passer après le début juillet. Ils seront tous excommuniés, la taille sans foncier. Voilà. Et il se peut... Enfin, je connais quand même mon histoire, vous savez. Hein, c'est pas la même chose d'être puni pour une faute et d'être puni pour une deuxième faute qui est exactement la même que la première.
Ouais. Écoutez, mon père...
Ah, c'est beaucoup plus grave.
Mon père... On vous comprend, hein, on vous comprend lorsque vous prêtez serment et, ah et ben, puis c'est définitif et c'est devant Dieu. Mais parlez-nous de ce qui est joyeux, ce qui est heureux en ce moment, ce renouveau,
oui,
ces baptêmes, tout cela.
Oui, mais je suis. Il se passe des choses très belles, voyez-vous. Mais par exemple. Je l'ai écrit sur mon compte Twitter pour dire que combien je suis heureux que Notre-Dame de chrétienté ait réussi ce pèlerinage de Chartres, qu'il soit allé en augmentant en nombre, en qualité aussi, d'après ce que l'on m'a dit. Que, bon. Mais quand j'entends que certains groupes qui s'y sont joints, ils n'ont pas l'habitude de la forme extraordinaire. On voulait célébrer la messe dans la messe de Paul VI et qu'on les en a empêchés. Cela m'ennuie. Voyez-vous ?
Oui.
Cela m'ennuie. Moi, je suis favorable et je suis persuadé que si les dirigeants de la fraternité Saint-Pie-X avaient été plus fraternels, plus respectueux à l'égard du nouveau pape, ils auraient obtenu cette possibilité qu'avait donnée Benoît XVI de célébrer les deux formes du rite, voyez-vous. Mais il faut que ça se passe dans l'obéissance et dans la clarté. Et je me réjouis, hein, ça ne ternit pas ma joie, mais je suis obligé de dire que cette joie quand même s'accompagne d'une certaine amertume avec ce problème de la fraternité Saint-Pie-X et puis aussi un autre problème extrêmement grave, peut-être plus grave encore vu le nombre de gens que ça touche, c'est ce qui se passe en Allemagne, hein, où nous sommes à deux doigts d'un schisme.
Oh là là.
Voilà. Alors, c'est pas vrai.
Alors, d'un côté, voilà. D'un côté, il y a une joie.
Oui.
Il y a une joie alors, de ce qui intervient, ce qui arrive, et de l'autre côté, il y a une désolation.
Bah oui, et je dis ça pourquoi ? Parce que, vous savez, l'Église catholique est faite de telle sorte qu'elle est hiérarchique, et qu'elle ne peut avancer que sous la conduite du successeur de Pierre.
Ah oui.
Il faut bien que les catholiques se mettent dans la tête que même s'il donne l'impression ici ou là d'avancer en dehors du successeur de Pierre, ce sera un feu de paille. Et il leur arrivera ce qui est arrivé au protestantisme du XVIe siècle, qui aujourd'hui est en grosse difficulté, et les protestants de demain, ce sont certainement les évangéliques d'aujourd'hui, voyez-vous, qui ont beaucoup changé d'ailleurs, et qui, comme par hasard, vous le relativiserez vous-même. Eh bien, je m'aperçois que ces évangéliques d'aujourd'hui ne sont plus les mêmes que ceux que j'ai connus il y a 20 ou 25 ans.
Mais nous ne sommes plus les mêmes.
Ben heureusement, mais eux, ils ont progressé en ce sens que, pour eux, le pape, c'est plus le diable. Le catholicisme, c'est plus le diable. Et même certains d'entre eux vont étudier à l'école publique de Jérusalem. Bon, voyez-vous, c'est pour vous dire que, en ce moment, il y a une grande remise en question. C'est vrai que, et ça, au fond, c'est le lot de toutes les périodes où il y a des grosses épreuves, ça remue.
Oui.
Et à ce moment-là, ça remue dans tous les sens. Seulement, c'est certain que le catholicisme remonte à un tel point qu'en 2011, j'ai lu une enquête qui avait été faite avec les statistiques qui précédaient un peu 2011, et si ça continuait comme ça, eh bien finalement, en 2050, c'est l'islam qui aurait été la religion majoritaire en France. Aujourd'hui, on ne peut plus dire ça, compte tenu de ce qui s'est passé de ces 4 ou 5 dernières années.
Oui, faites-nous plaisir, donnez-nous du bonheur, dites-nous ce qui va bien.
Je vous le dis, mais justement, pour consolider ce qui s'est passé ces 4 ou 5 dernières années, ça ne peut se faire qu'autour de Léon XIV, notre actuel pape glorieusement régnant. Ça ne peut se faire que dans l'obéissance à la hiérarchie de l'Église, au successeur de Pierre, sinon tout s'écroulera.
Oui, oui.
Voilà.
Nous sommes bien d'accord.
Oui, oui, non, mais c'est pour ça qu'il faut le rappeler. Et que là-dessus, quels que soient les sentiments que les uns ou les autres nous pourront avoir pour tel ou tel, et je peux comprendre, j'ai été un de ceux, ils le savent bien d'ailleurs, puisque quand j'étais dans mon diocèse d'incardination, j'étais le premier prêtre qui a appliqué Summorum Pontificum de Benoît XVI et qui a créé un groupe stable qui a dit la messe en forme extraordinaire. Et donc, on sait très bien que je ne suis pas contre. Mais il ne faut pas que la messe en forme extraordinaire serve de paravent à ceux qui sont contre Vatican II et à tout ce que nous a apporté le Concile Vatican II, mené par deux papes qui ont été quand même portés sur les autels par le magistère de l'Église, à savoir Jean XXIII et Paul VI, qui sont tous les deux saints.
Oui.
Donc, se rebeller contre Vatican II n'est pas catholique. Et risque de détruire tout ce qui est en train de se faire, qui nous fait plaisir à vous et à moi, qui nous réjouit. Mais ça s'écroulera si cela ne reste pas dans la communion du successeur de Pierre, et ça veut dire l'acceptation de son autorité, et ça veut dire aussi l'acceptation des conciles œcuméniques signés par les papes.
Oui, oui, oui. Mais ça, ça n'est pas neuf. Ça n'est pas neuf.
Ça n'est pas neuf, mais justement, je m'étonne que des gens qui se targuent de connaître bien la tradition et qui, au nom de la tradition, refusent Vatican II, ne connaissent pas cette tradition qui est très ancienne, à savoir que quiconque ordonne évêque, quelqu'un qui n'a pas ses lettres, les lettres pontificales qui l'instaurent évêque, est immédiatement lui-même et la personne qui l'ordonne immédiatement excommunié latin sententiaire.
Oui. Mon père, dites-nous quand même ce que vous pensez de ces nouveaux baptisés, de ce mouvement.
Alors, je dis que c'est un mouvement qui est fait pour durer compte tenu du sérieux qui est posée, des questions qui nous sont posées. Et voyez-vous, c'est là que nous voyons les lacunes de l'enseignement théologique qui a été donné au séminaire au cours de ces dernières années. D'ailleurs, beaucoup de séminaires ont fermé, et tant pis, je prends mes responsabilités. Pour beaucoup d'entre eux, ça me réjouit.
Hein, mais les néophytes qui viennent d'être, qui sont maintenant baptisés, ils sont heureux, ils ont la joie, ils ont l'énergie, ils ont l'Esprit Saint avec eux.
Mais ils posent des questions.
Et ils sont exigeants.
Mais ils posent des questions, je vous dis.
Voilà.
Il faut leur répondre.
Mais oui.
Il
faut être formé pour cela.
Vous venez de dire évidemment ce qui est mon souci. C'est que.
Cessons avec les soucis. Avec les soucis pour l'instant.
Parce que je vois, par exemple, nous avons. Je suis à Saint-Maur, et dans la paroisse où je suis. C'est plein tous les dimanches, nous avons énormément de baptisés, mais par exemple, un de nos problèmes, c'est de trouver des laïcs qui aient suffisamment de temps et aussi de connaissances pour prendre sous son aile un de ces nouveaux baptisés et l'instruire.
Oui.
Parce que le curé, vous comprenez que le curé, il est tout seul dans un poste où il faudrait au moins deux vicaires. Ouais. Alors, il a deux vicaires en ma personne. Un, moi j'ai 82 ans, et l'autre en a 90.
Mais c'est le drame.
Nos moyens sont limités. Et parmi ces nouveaux baptisés, il faut espérer que certains auront la vocation d'être prêtres.
Espérons.
Mais encore faut-il qu'on puisse répondre à leurs questions, et qui sont des questions difficile en théologie que j'ai entendu, moi, qui sont des questions tout à fait valables. Pour ça, il faut une connaissance biblique.
Il faut faire confiance. Cherchons et vous trouverez. Cherchez et vous trouverez. Hein, c'est cela. Demandez,
oui,
on vous répondra. Donc ça va.
Oui, bien sûr.
Hein, bon, c'est ça.
D'accord, mais.
Quel est votre sentiment, Gérard ?
Écoutez, moi je suis un tout petit peu de mon père, si vous me permettez. Bien sûr, moi je n'ai aucun droit de me mêler de ce... Je veux dire par là, je n'ai pas à juger entre, si vous voulez, le respect ou le non-respect de l'autorité du Saint-Père par tel ou tel groupe, etc. Ça, c'est pas... Moi, je suis un chrétien, moi je souhaite qu'une chose, c'est effectivement que l'Église catholique, qui est mon Église, redevienne une des plus grandes et que dans notre pays, elle soit ce qu'elle a été pendant des siècles. Voilà. C'est-à-dire la grande Église, face à ceux qui en face prétendent aujourd'hui à ce rôle de direction. Donc, à la limite, je suis un peu triste de vous entendre évoquer, je sais que c'est des choses réelles, les problèmes que vous évoquez, le manque de prêtres, le manque de gens pour former les nouveaux convertis, etc. Tout ça, c'est vrai. Mais moi, j'essaye plutôt de ne voir que le verre plein, en me disant, le pèlerinage de Chartres, il m'a été raconté par une amie qui s'appelle Charlotte Dornelas, qui était avec, je crois que c'était la deuxième ou troisième fois qu'elle y allait, elle racontait avec toute la ferveur ce qu'était ce beau pèlerinage. Je suis ravi de voir qu'il y a de plus en plus de jeunes qui vont dans ces réunions catholiques. Et pour moi, c'est un signe positif du renouveau de l'Église. Vous, c'est votre...
Écoutez, c'est mon opinion.
Je la respecte. Je veux dire par là, je la respecte. Moi, je suis incapable de trancher dans ce domaine entre vous et d'autres. Simplement, j'espère que ces petites querelles, byzantines ne seront pas un frein à ce renouveau de l'Église catholique dans mon pays. Voilà, c'est ça que je souhaite.
Non, mais vous avez bien raison. Mais ce n'est pas byzantin en ce sens que, quand même, dans la critique de Vatican II, on reproche au Concile d'avoir proclamé la liberté religieuse. Mmh. Oui. Or, je regrette, la liberté religieuse, c'est quelque chose d'important. Et on l'a exprès mal interprété. Comprenez-moi bien. La liberté religieuse, quand le Concile en parle, il s'est tenu entre 1962 et 1965. Ben, il pensait surtout aux pays où elle n'existait pas, c'est-à-dire dans les pays communistes. C'est-à-dire qu'il s'agissait, pour l'Église catholique, de parler de la liberté religieuse du citoyen dans un État, mais non pas de la liberté religieuse du croyant dans l'Église. Parce que vous êtes catholique comme moi, et vous savez bien que notre liberté religieuse est quand même limitée par les devoirs de notre religion, par les commandements, les 10 commandements de Dieu,
et les
par
engagements.
L'enseignement et l'engagement, et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Être pour la liberté religieuse, ça ne veut pas dire qu'on peut croire n'importe quoi dans l'Église catholique, pas du tout. C'est simplement dire que dans un pays comme la France, qui certes a été majoritairement catholique pendant très longtemps, je ne vois pas l'Église catholique, je pense que c'est même un contre-témoignage pour l'Église catholique, de demander pour elle seule la liberté religieuse et la reconnaissance, et pour les autres, rien. Oui.
Mon père...
Monsieur Carrérou,
vous
imaginez cela ?
Oui, non, mais je vous entends, j'essaie de comprendre ce que vous venez d'expliquer.
Oui.
Ah voilà.
Oui.
Alors,
mon père, je voulais vous...
On reproche à Vatican II d'avoir prôné la liberté religieuse. Mais il faut voir ce qu'il avait en face de lui à l'époque, c'était les communistes.
Et mais bien
aujourd'hui,
sûr.
Aujourd'hui, on n'a pas les communistes, mais on a quand même un gouvernement qui veut obliger les prêtres à ne pas dissuader quelqu'un de se suicider ou de l'euthanasie, sinon il est puni de 7 000 euros d'amende et de 2 ans de prison. Alors vous comprenez, la liberté religieuse, moi je me bats pour, voilà.
Toujours, non mais là je pense que vous avez, ce que vous venez de dire, la dernière phrase que vous avez dite, je la partage entièrement.
Et moi
totalement. Voilà, tout est là. Tout
voilà.
Parce qu'on ne peut pas réclamer les choses pour soi et puis pour les autres, dire qu'on s'en fiche. Voilà. Parce qu'ils sont protestants ou juifs et ils sont pas catholiques. Donc, ça nous regarde, on s'en lave les mains. Eh ben non, on peut pas dire ça. Vous savez très bien, on ne peut pas le dire.
Non,
parce
vous avez
que
raison.
Le temps, il est ce qu'il est, il avance. Et la situation de l'Église catholique au XXIe siècle n'est plus celle du XVIIIe siècle, du XVIIe ou du XVIe siècle, c'est tout.
Vous avez raison.
Et ça, le pape Léon XIII, justement, et c'est pas pour rien que le pape actuel a pris le nom de Léon, le pape Léon XIII, qui est à mon avis un des plus grands papes du XIXe siècle avec Pie VII, qui a su faire face à Napoléon. Bon, Léon XIII, dans une très belle encyclique, qui s'appelle Libertas Praecisium, a justement traité cette question. Et il a dit, il y a des cas où on doit demander la liberté religieuse parce que c'est pour éviter des maux plus grands. Voilà, c'est tout. Hein. Et oui. C'est un peu, si vous voulez, ce qui s'est passé au XVIe siècle, quand le roi Henri IV s'est converti au catholicisme, et deux, a signé l'édit de Nantes.
Oui.
Voilà. Il a assuré la paix religieuse à la France. Voilà.
Mon père, je vous retrouve bien dans tout ce que vous venez de dire. Je voudrais maintenant parler un petit peu avec Gérard de la foi qu'il habite, etc. Je vous remercie donc d'avoir participé à cette émission et je me réjouis de vous entendre à chaque fois. Et j'ai particulièrement apprécié votre dernière homélie qui était superbe, bouleversante. Je vous embrasse, mon père.
Moi aussi, et bonjour à M. Calais.
Au revoir, mon père.
Bonne continuation.
Au revoir, mon père.
Au revoir.
Alors, chers amis de Radio Courtoisie, je voulais vous parler, moi, des pèlerinages. Et en particulier, je vais vous parler du pot des pèlerins. Alors, c'est un pot des pèlerins qui a lieu tous les derniers vendredis de chaque mois. Et cela se passe depuis 22 ans. Et c'est un pot ouvert à tous ceux qui ont envie de parler de leur pèlerinage ou de parler, pardon, de parler du pèlerinage qu'ils vont faire et de tous les pèlerinages. C'était un pèlerinage qui est un pot des pèlerins qui se passe donc le dernier vendredi de chaque mois, donc le prochain vendredi. Et il y a une adresse, il a changé d'adresse, donc voici la nouvelle adresse pour le pot des pèlerins. C'est le palais, parce que c'est en face du palais de la mutualité. Alors le restaurant, café-restaurant s'appelle le palais. Il est 16 rue Monge, face au palais de la mutualité, dans le 5e arrondissement. Et c'est le métro Maubert Mutualité. C'est le 260e pot des pèlerins qui a lieu vendredi et toujours avec Ferdinand Soler qui l'organise depuis 2004. Voilà, ça je tenais à vous le dire. Et maintenant nous allons prendre une pause musicale d'une musique que Gérard aime. Voilà.
Chers auditeurs, la campagne de déclaration de l'impôt sur la fortune immobilière touche à sa fin. Savez-vous qu'il est possible de transformer cet impôt en un soutien concret pour Radio Courtoisie ? Grâce à notre fondation abritante, vos dons sont déductibles de votre impôt sur la fortune immobilière à hauteur de 75% dans la limite de 50 000 euros, permettant même de réduire cet impôt à zéro. Si vous souhaitez orienter votre contribution vers nos projets de développement ou si vous connaissez dans votre entourage des personnes désireuses de nous soutenir par ce biais, devenez nos ambassadeurs. Pour connaître la marche à suivre, contactez dès aujourd'hui notre directrice administrative Amandine Sicot en appelant au 07 85 55 90 91 ou au 01 46 51 00 85 ou en envoyant un courrier électronique à secrétariat@rc.fr. Radio Courtoisie ne vit que par vous. Merci pour votre indispensable fidélité.
Chers auditeurs de Radio Courtoisie, vous écoutez le Libre Journal du Monde de la Foi. Nicole Pilorge reçoit Gérard Carrérou.
Alors Gérard, pourquoi cette musique?
Pour une raison simple, c'est que j'ai beaucoup aimé le jazz dans la première partie de ma vie. Je l'aime toujours autant, mais je veux dire, j'étais un fan à l'époque. Et Miles Davis, dont on vient d'entendre ce merveilleux disque, c'était la musique qu'il a faite pour le film Ascenseur pour l'échafaud, dans lequel jouait Jeanne Moreau. Et cette musique, je trouve, c'est un des plus beaux morceaux de ce qu'on appelait à l'époque le jazz moderne.
Moderne.
Et chaque fois que je l'entends, je suis émerveillé. Et je crois en plus, et ça c'est le hasard des choses, que quand je vous ai dit « j'aimerais bien écouter ce disque de Miles Davis », j'ai entendu à Europe 1 ce matin, je crois, ou hier, que ça aurait été le centenaire de la naissance de Miles Davis.
Ah!
Qui était effectivement probablement le pape du jazz moderne de ma génération.
Oui, moi j'aimais beaucoup aussi Miles Davis. Il y a une profondeur à mesure que ça avance. C'est très, très, très profond.
Oui, c'est ce qui distinguait pour moi et ma génération. Ce qu'on appelait le jazz d'avant, le jazz des années 20, 30, etc. Sidney Bechet, si vous voulez.
Jazz
qui était formidable pour danser, exubérant, etc. D'une sorte de... Là, avec Miles Davis, on trouve quelque chose qui ressemble en jazz à ce qu'est la grande musique pour ceux qui aiment la musique. Quoi.
Oui, c'est tout à fait mon ressenti. Et moi aussi, j'aime beaucoup le jazz et depuis les premiers disques de jazz qu'on a pu entendre.
Armstrong,
voilà. Et les chanteurs, les chanteuses. Voilà. Bon, alors, nous en étions à votre enfance, à votre papa, votre grand-père, vos grands-pères, votre... Et puis, l'Aveyron.
Oui.
Ensuite, vous étiez parisien.
Ensuite, j'étais parisien, j'ai fait mes études à Paris, au Collège Colbert, et puis...
C'était où, le Collège Colbert?
C'était dans le 10e, dans un quartier qui, aujourd'hui, est devenu un peu difficile, parce que c'était près du métro, si je me souviens bien, Stalingrad. C'est un quartier où il y a beaucoup, malheureusement, de ravages de la drogue, notamment des narcotrafiquants, etc. Mais à l'époque où j'étais... où j'allais tous les jours au Collège Colbert, je prenais le métro. C'est une autre époque aussi. C'est une époque où un enfant de 12 ans prenait le métro sans que ses parents se fassent du souci en disant qu'est-ce qui va lui arriver. C'est plus tout à fait pareil maintenant à Paris, en tout cas.
On ne peut plus laisser
quartiers.
Les enfants comme ça dehors maintenant.
Bien sûr.
Ça devient même dangereux pour eux.
Mais bien sûr. Moi, c'est pour ça que je dis que c'était une autre époque.
Oui.
Mais en tout cas, pour la mienne, ce fut une belle époque. Et puis voilà, et puis j'ai...
Alors, au lycée, vous étiez au lycée Colbert, et ensuite ?
Ensuite, je suis allé à la fac, et j'ai fait une licence de lettres, parce que moi, j'étais d'une famille modeste, je dirais pas une famille pauvre, mais une famille modeste, si vous voulez, et je n'avais aucune connexion, par exemple, avec le métier que j'ai fait après, pendant les 60 dernières années de ma vie, c'est-à-dire le journalisme. En général, à l'époque, pour être journaliste, il fallait avoir des relations, il fallait probablement être plutôt de la classe bourgeoise, connaître du monde pour trouver un job, etc. Moi, j'avais rien de tout ça, donc je rêvais d'être journaliste. Mais...
Ah, alors comment est-ce venu ce rêve?
C'est venu parce que, je vais vous raconter une anecdote, mon père adorait la politique et mon père était profondément mendésiste. Pierre Mendès-France avait été le président du conseil qui avait mis fin à la guerre d'Indochine après le désastre de Dien Bien Phu. Et mon père, qui adorait Pierre Mendès-France, qui fut d'ailleurs le général de Gaulle lui a rendu hommage. C'est un des grands hommes de la 4e République, Pierre Mendès-France. C'est lui aussi qui a été responsable de la bombe atomique française qui a été après donnée à Israël. C'est des choses importantes, on oublie tout ça. Mais
Ma mère l'aimait beaucoup aussi.
Oui, c'était un homme de qualité, vraiment de grande qualité. Et mon père me traînait, moi je dis me traînait parce que j'étais encore un petit ado, quoi, j'avais 12, 13 ans. Il m'amenait dans des réunions, j'entendais parler politique.
C'est là que virus...
Et quand je suis arrivé à Colbert, au Collège Colbert, c'était des périodes intensément politiques. Il y avait les communistes représentaient 30% du vote en France, il y avait des bagarres dans le lycée entre ceux qui étaient communistes et ceux qui étaient contre, etc. On était très politisés, et moi je me suis très vite intéressé à la politique. Et puis je rêvais, j'écoutais parfois à la radio les journalistes politiques qui parlaient, je rêvais d'être parmi eux, mais je ne savais pas comment. Donc comme je ne savais pas comment, je me suis dit, tu ne pourras pas être journaliste, il faudra faire autre chose. Donc je me suis destiné à être professeur. J'ai commencé ma vie professionnelle comme professeur. J'ai enseigné pendant 5 ans.
Où est-ce que vous enseignez ?
Alors, à l'époque, j'avais simplement ma licence et on engageait, vous rendez compte, il y avait un manque de professeurs considérable. On engageait des professeurs simplement avec leur licence. C'est-à-dire qu'on sortait de 3 ans de fac, on avait ces certificats de licence et on vous disait, ben voilà, vous êtes nommé à Bondy ou à Sucy-en-Brie, etc. Et vous vous retrouviez, c'était mon cas, vous aviez juste 20 ans, vous aviez aucune formation professionnelle et vous vous retrouviez dans une classe de banlieue, vous aviez des sixièmes, je me souviens de mon premier poste, mais il y avait 2 sixièmes, une qui avait 45 élèves et l'autre 46 élèves. Vous vous rendez compte ? Et c'était une époque où on commençait déjà à voir effectivement les migrations importantes de population. Et dans ma classe, mes classes de 6e, j'avais à peu près une moitié de Français, aujourd'hui on dirait de Français de souche, d'origine française de souche, et puis une moitié de Français d'origine maghrébine.
Et ça, c'était... Alors, ça fait quelles années ?
Ah ben, c'est facile. Je suis né en 42, j'avais 20 ans, c'était en 62. On était l'année de la paix en Algérie, la dernière année de la guerre d'Algérie. Mais j'avais ces élèves devant moi, je vous dis, la moitié de la classe était des Maghrébins, l'autre moitié était des Français de souche. Et ce qui était extraordinaire, c'est que ces enfants maghrébins qui étaient dans ma classe de 6e, me disait, monsieur, pour la réunion que vous faites pour les parents, je vais amener mes parents, mais ils ne parlent pas français, mes parents. Ils sont arabes, ils ne parlent pas français. Mais moi, si ça ne vous ennuie pas, je traduirai. Et c'était extraordinaire, ces souvenirs que j'ai de petits enfants qui rêvaient d'être français, qui n'avaient qu'une idée, c'est de s'intégrer à la France. Et leur papa et leur maman venaient, ils venaient du bled, ils ne connaissaient pas le français. C'est le gosse qui traduisait pour ses parents. Et la maman me disait, ou le papa me disait, « Oh monsieur, il est content parce que dans sa classe, il va avoir un travail. » Il y avait une chance que la France, malheureusement, n'a pas réussi à capitaliser complètement, qui était cette chance de faire de tous ses enfants des vrais Français, des Français qui aiment la France. Et malheureusement, quand je pense à cette période de ma vie, je trouve quel ratage, quand on voit ce qui arrive aujourd'hui, quel ratage par rapport à ses enfants qui n'avaient qu'une idée, ses parents, parce qu'il y avait les enfants et les parents, qui n'avaient qu'une idée. Ils ne crachaient pas sur la France, ceux-là. Ils n'avaient qu'une envie, c'est de s'intégrer à la France. Et on a, malheureusement, pour une partie d'entre eux, on n'a pas su le faire.
C'était l'époque encore de la guerre d'Algérie.
Bien sûr, on sortait de la guerre d'Algérie, c'est pour vous dire, que, voilà pourquoi tout ça m'a amené à la politique d'un côté, et puis au journalisme de l'autre. Parce que quand j'enseignais mes premières années, j'avais des copains qui me disaient, un ancien copain de la fac, je le rencontre un jour, il me dit, tu sais, moi je suis à Combat. Oh, je dis, Combat, journal Combat. Il me dit, oui, j'ai trouvé un job, là c'était Tesson à l'époque. Ah. C'était Philippe Tesson qui dirigeait Combat, le nouveau Combat, parce que je crois qu'il y avait, c'était Combat. Je ne me souviens plus, en tout cas, il me dit, c'est vraiment formidable. Et je me suis dit, effectivement, j'ai dit, mais comment tu as fait pour devenir journaliste ? Il m'a dit, j'ai passé l'examen d'entrée au centre de formation des journalistes. Il y a un concours tous les ans Bah, t'as qu'à te présenter. C'est ce que j'ai fait. J'ai été accepté. J'ai fait 2 ans du centre de formation des journalistes, tout en restant professeur. J'ai fait les deux choses. Comme ça, j'avais un job d'un côté, et puis oui, je continuais mes études. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé en 65, diplômé du centre de formation des journalistes de Paris. Et j'étais même major de ma promotion. Je suis un peu fier de moi.
Oh, mais bravo.
Et c'est comme ça que j'ai trouvé mon premier emploi de journaliste. Et ça fait 60 ans que ça dure.
Et alors, le premier emploi, c'était où?
Au Dauphiné Libéré à Grenoble.
Ah oui.
Un grand journal régional, alors, le Dauphiné Libéré. Et j'ai passé mes premiers mois au marbre, ce qu'on appelait au marbre.
Oui.
C'est-à-dire dans l'imprimerie du journal, avant de remonter à Paris. Et voilà. Puis après, j'ai découvert la radio, qui a été le cœur de mon
journal. Donc vous avez commencé par des papiers écrits, vous
écriviez... Oui, là, au Dauphiné Libéré, j'étais dans les éditions de presse écrite. Vous savez, on allait au marbre, c'était l'époque où les journalistes, le soir, sur le coup de minuit, 1h du matin, descendaient à l'imprimerie, on imprimait la page, c'était du plomb. Vous avez encore des lignes et des lettres en plomb, on les mettait dans les pages, et puis on faisait une première morasse, on regardait, on corrigeait les fautes, et puis après, ça partait à la machine, quoi. Donc j'ai connu ce journal, ça ne peut rien avoir avec le journalisme aujourd'hui.
Non, mais...
Aujourd'hui, tout est automatisé, etc. Mais c'était le journalisme à l'ancienne, encore.
J'ai connu cela parce que, en sortant du théâtre, ça m'est arrivé souvent d'aller à l'Aurore.
Oui, bah oui, bien sûr.
Et il y avait le marbre.
J'ai
vu ça. Et puis après, les rotatives aussi.
C'est ça, exactement. Vous avez connu.
Donc. Comment s'appelaient ces sortes de cartons où il y avait les lettres étaient imprimées dans du carton?
Oui, c'est les morasses,
en relief.
C'est les morasses, je crois qu'on appelait ça.
C'était très...
Oui, bien sûr, oui, c'est exactement ça. J'ai connu ça. Donc.
C'était la vie nocturne.
Oui, mais je veux dire, c'était le journal imprimé tel qu'on l'avait commencé au 19e siècle, les grands journaux du 19e siècle, qui ont continué jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Et là, je vous parle des années 50, quoi. On était dans les années 50-60, et c'était encore comme ça. Aujourd'hui, c'est totalement différent. C'est tout automatisé, il n'y a plus de journaux comme ça.
Alors, pour envoyer vos papiers à Grenoble, vous n'alliez pas à Grenoble?
Ah ben j'allais chercher tout ça aussi, c'était artisanal. On allait chercher le journal, le Dauphiné Libéré, c'était un grand journal régional. Il avait des correspondants dans toutes les petites villes, les petits villages de la Drôme, de l'Ardèche, enfin de toute cette région. Et il y avait des correspondants qui écrivaient des petits papiers. Et puis nous, on recevait des petits, on appelait ça des hors-sacs. On vous envoyait ça par la poste ou on vous le déposait. Et puis moi, qui étais responsable, par exemple, de l'édition Rhône-Alpes, Drôme, Ardèche, etc., je prenais tous ces petits papiers écrits par des gens qui n'étaient pas des journalistes. C'était simplement une dame ou un monsieur qui disait, voilà, je me suis rendu aujourd'hui à l'anniversaire des anciens du 12e régiment d'infanterie, il y a eu une fête, etc. Il racontait tout ça, et puis moi, je le mettais un peu en français.
Vous habitiez là-bas?
Non, bah pendant cette période, oui, quand je suis resté.
Ah, oui.
J'ai habité pendant plusieurs mois là-bas. Et donc, je remettais ça un peu en langue française, parce que souvent, c'était un peu laborieux comme français. Et puis, on mettait des photos, etc. Voilà, c'était ça, la presse de province. Et on vous disait, ce qui est bien, c'est le journal. Chaque lecteur du journal doit avoir sa photo dans le journal au moins une ou deux fois par an. Comme ça, il renouvellera son abonnement au journal.
Ah, autre.
Et donc, on mettait des photos, on voyait des photos qui n'avaient aucun intérêt, si ce n'est que les gens étaient contents de voir leurs photos dans le journal.
Oui.
Parce que le lendemain, quand ils allaient acheter la baguette, les gens disaient « Ah, tu t'es vu dans le journal, je t'ai vu dans le journal. »
Oui, mais ça marche toujours un peu comme ça.
Ça marche encore un peu comme ça, oui.
Alors, je crois que maintenant, nous allons écouter une autre musique, quelque chose qui vous plaît. Et je vais demander à Aline, qui est de l'autre côté de la vitre, si elle peut nous mettre la deuxième musique qui est prévue, que vous avez aimée.
Peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormi. Quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Lentement, les ailes déployées. Lentement, je le vis tournoyer. Près de moi, dans un bruit semantel, comme tombé du ciel, l'oiseau vint se poser. Il avait les yeux couleur rubis et des plumes couleur de la nuit. À son front brillant de mille feux, l'oiseau roi couronné portait un diamant bleu. De son bec, il a touché ma joue. Dans ma main, il a glissé son coude. C'est alors que je l'ai reconnu. Surgissant du passé, il m'était revenu. Dit l'oiseau, on dit emmène-moi, retournons au pays d'autrefois. Comme avant, dans mes rêves d'enfant, pour cueillir en tremblant des étoiles et des étoiles. Comme avant, dans mes rêves d'enfant, comme avant, sur un nuage. Allumer le soleil, être faiseur de pluie et faire des merveilles. L'aigle noir dans un bruissement d'ailes brise son vol pour regagner le ciel. Un beau jour, peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormi. Quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Un beau jour, où était-ce une nuit? Je m'étais endormi. Quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Un beau jour, une nuit, près d'un lac, endormi. Surgissant de nulle part, surgit un aigle noir. Un beau jour, une nuit, près d'un lac, endormi. Or soudain, il venait de nulle part, il surgit l'aigle noir. Un beau jour,
écoutez Radio Courtoisie, le libre journal du monde de la foi. Nicole Pilorge reçoit Gérard Carrérou et nous avons reçu le message d'un auditeur qui vous remercie, Nicole, d'avoir invité Gérard Carrérou dans notre studio et le père Viau au téléphone. C'est un auditeur attentif car il a repéré que nous avions oublié de préciser l'heure du pot des pèlerins. Donc le pot des pèlerins se tiendra vendredi, comme tous les derniers vendredis du mois, au restaurant Le Palais, 16 rue Monge, à Paris, dans le 5e.
Et c'est à 19h.
À 19h.
19h, 19h30, enfin, c'est ouvert. On peut peut-être même venir avant 19h. Enfin, ça commence voilà, c'est à cette heure-là. Alors, Gérard, est-ce que vous voulez nous parler de l'aigle noir?
Oui, alors je vais vous dire, à cette époque, j'avais un de mes amis du collège d'ailleurs, qui était un garçon qui malheureusement, je le dis tout de suite parce qu'il est mort dans cette horrible maladie qui s'est déclenchée dans les années 75, enfin le sida en l'occurrence. Mais à l'époque, il ne savait pas qu'il était malade. Il était... C'est quelqu'un qui incarne un peu notre époque, ce garçon. C'était mon ami d'abord, mais il était communiste, alors que moi j'ai toujours été très anti-communiste dans ma vie. Il était communiste et il était tellement communiste qu'il a fini comme journaliste à l'Humanité. Mais c'était un garçon d'une culture extraordinaire et il adorait la chanson. Et comme il était à l'Humanité, il avait une carte de presse, qu'évidemment moi j'avais pas. Il m'a dit un jour, il m'a dit « Écoute, je vais t'emmener dans un petit cabaret qui s'appelle L'Écluse, au bord de la Seine, là, à côté de Saint-Michel.
Oui. »
Et on a pris et Barbara, qui était inconnue à ce moment-là, qui commençait, elle faisait ce que faisaient un certain nombre de chanteurs de l'époque, c'est-à-dire qu'elle faisait...
Brel,
et elle passait dans les cabarets du quartier. Après, elle allait place de la Mutualité, ou elle allait dans d'autres places de la Contrescarpe, etc. Elle chantait une ou deux chansons. J'ai été totalement envoûté par Barbara, parce que je la voyais, en plus, c'était un petit bistrot, L'Écluse, donc j'étais à 2 mètres d'elle. Et quand elle chantait aussi bien l'Aigle Noir, j'en dirais un mot de l'Aigle Noir d'ailleurs, mais... qu'elle chantait Göttingen ou d'autres, enfin, ces merveilleuses chansons de l'époque. Mais pourquoi l'Aigle Noir? Parce que c'est une chanson qui, aujourd'hui, on parle malheureusement encore, et souvent, de ces pédophiles qui s'en prennent aux enfants. Il y a eu une affaire en cours. Aujourd'hui, quelqu'un est passé en justice pour ça, dans le cadre des écoles de la ville de Paris. Ça, c'est un scandale extraordinaire qui ne fait que commencer. Parce qu'il y a probablement des dizaines et des dizaines de pédophiles qui seront amenés à être jugés.
Et qu'on a retenu.
Oui, qu'on a caché l'histoire. C'est un drame, c'est terrible. C'est une bombe à fragmentation, cette affaire. Mais j'y pense parce que l'Aigle Noir, et ça je l'ai lu plus tard, je ne le savais pas quand j'ai entendu la chanson, mais c'est une chanson qu'a écrite Barbara qui avait été abusée dans sa propre famille. Par son père, pour dire les choses. Et c'est une... Évidemment, quand on ne savait pas et qu'on écoute la chanson aujourd'hui, elle prend évidemment un autre relief. C'est la première fois qu'on avait un témoignage de ces enfants, malheureusement, abusés par des adultes, si vous voulez. Donc, voilà, c'était la période où j'ai découvert la chanson avec... Et après, toujours le même ami, Claude Corès, m'a dit « Tiens, je vais te faire connaître un groupe dont on parle en Angleterre, ils viennent à Paris. » Et j'ai vu la première fois les Beatles. La première fois où ils se sont produits à Paris.
Alors, votre impression ?
Oh, ben, c'était formidable. Et ça, c'est pour la vie. Si vous voulez, je vous ai fait passer tout à l'heure Miles Davis. C'est ma vie, Miles Davis. Barbara, c'est une des chanteuses qui ont aussi été dans ma vie. Et quant aux Beatles, ils sont toujours dans ma vie. Quand je m'ennuie un peu, de temps en temps, en voiture ou à la maison, ben je ressors les Beatles. C'est tellement beau.
Alors, ensuite, on en était à la presse écrite,
oui.
Mais vous avez découvert la radio.
Ah ben oui, alors ça c'était pareil, c'est accidentel souvent, d'ailleurs dans les métiers comme ça, on commence... je suis rentré du Dauphiné libéré où j'avais fait 6 mois. On voulait m'engager d'ailleurs là-bas. J'ai dit ben non, moi je serais bien resté, mais je suis parisien, je veux quand même retrouver ma famille à Paris. Donc je suis remonté à, comme on disait, je suis remonté à Paris et j'ai cherché du boulot. Et à ce moment-là, j'ai suivi le procès Ben Barka. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose.
Oui, oui.
L'affaire
L'enlèvement de Ben Barka.
Voilà, exactement. C'était... Et ça a été un procès extraordinaire.
C'était à Saint-Germain-des-Prés que ça s'était passé.
Vous êtes excellente. Vous êtes excellente, Nicole. Oui, oui. Il a été, Ben Barka a été kidnappé par deux policiers français devant le drugstore de Saint-Germain-des-Prés. À l'heure du déjeuner, il était soi-disant venu pour déjeuner et il a été kidnappé. Ça a été un scandale. Le général de Gaulle a piqué une colère monstrueuse en disant « Mais qui a ordonné ça ?» Il y a eu des ministres marocains qui ont été impliqués. Le général Ifou, enfin, c'était une histoire, un scandale considérable.
Comment s'appelait le général ?
Oufkir.
Voilà. Oui, oui.
Bon, moi, j'ai donc suivi, je cherche le mot, je ne le trouve pas, en stringer, on disait à l'époque, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas employé par le journal, mais qui fait des papiers dans le journal. Si vous voulez, j'ai suivi les deux procès Ben Barka.
La pige aussi.
Oui, c'est pigiste, enfin, c'est une forme de
tout
pige.
Ça, oui.
Et j'ai suivi, donc, parce que les procès ont duré chacun 6 semaines. Donc c'était une longue histoire, j'ai écrit plein de papiers sur l'affaire Ben Barka. Jusqu'au jour où on m'a dit « Ah, il y a un job à prendre à Radio Monte-Carlo. Radio Monte-Carlo va ouvrir une rédaction à Paris. Et si ça vous intéresse, évidemment, j'y suis rentré. Donc j'ai fait mes premières armes à la radio, au bureau parisien de Radio Monte-Carlo. Et là, je suis resté 4 ans, je crois.
Et c'était à quel endroit dans Paris ?
Rue Magellan, près des Champs-Élysées.
Ouais.
Donc, alors j'ai appris.
Alors là, qu'est-ce que vous avez fait ?
Le premier jour, le rédacteur en chef m'a dit toi le nouveau, puisque c'était ça, j'étais le nouveau, il m'a dit toi le nouveau, qu'est-ce qu'on va te faire faire ? Bon, il y avait un gosse qui s'était fait kidnapper, je ne sais pas où, dans la forêt de Versailles. C'est une abominable histoire. Il m'a dit tu vas suivre cette histoire. Je suis parti dans le bois de. C'était, je ne sais plus dans quel bois autour de Paris. Le pauvre gosse avait été. Là aussi, c'était un crime. De rôdeur ou je ne sais pas quoi. Et j'ai vu ce qu'était l'univers des journalistes. Parce que c'était les journalistes qui faisaient ce type de faits divers. C'était, bon, je ne veux pas dire de mal d'entre eux, parce que certains sont devenus après des copains, mais ce n'était pas la crème, forcément, de la crème de la crème. Parce que c'était des matières qui étaient tellement abominables. Enfin, c'est du fait divers crapoteux, si vous voulez.
Ouais.
On dirait aujourd'hui un fait divers crapoteux. Mais il faut... Quand on fait du journalisme, il faut tout faire.
Bien sûr.
Et j'ai tout fait. Je veux dire, j'ai tout fait, y compris ce genre de suivre ce genre de faits divers. J'ai fait après du journalisme à l'étranger. J'ai fait des guerres. J'ai couvert des endroits un peu dangereux. Tout ça pour arriver, au bout de quelques années, à Europe 1. On m'a dit, le patron d'Europe 1 veut te rencontrer. Le patron d'Europe 1 à l'époque s'appelait Maurice Siegel, c'était un grand monsieur du journalisme, il m'a convoqué, il m'a dit « voilà, j'ai besoin de quelqu'un pour le service politique, si ça vous intéresse, évidemment ». Est-ce que j'allais répondre non, alors qu'Europe 1 était la radio, je dirais numéro 1 à l'époque. Il y avait France Inter déjà, mais France Inter c'était la radio d'État, Europe 1 c'était la première radio privée, il y avait RTL et Europe 1. Donc c'est comme ça.
Et
que
Luxembourg, il y avait.
Oui, c'était RTL, c'était Luxembourg à l'époque. Oui. C'était Radio Luxembourg. Je ne sais pas si ça s'appelait déjà RTL. En tout cas, il y avait
Monte Carlo.
Il y avait 4 radios importantes. Il y avait France Inter, service public. Il y avait Europe 1 et RTL, les radios privées. Et puis Monte Carlo. Mais Monte Carlo couvrait surtout la moitié sud de la France.
Mmh.
Enfin voilà. Et à partir de là, j'ai plus quitté la radio.
Et alors, la politique,
oui, parce que je...
Intéressé.
La politique, effectivement, puisque je suis devenu chroniqueur parlementaire, j'allais tous les jours à l'Assemblée nationale, et puis j'ai suivi, on m'a demandé, c'est normal pour un journaliste politique, on m'a demandé de couvrir, comme on disait, de suivre la première campagne présidentielle de Georges Pompidou. Et la première campagne que j'ai suivie, c'est celle de Pompidou. Ça voulait dire pendant 2 mois, pas tout à fait 2 mois, 1 mois et demi, tous les jours, on prenait l'avion et on a fait le tour de France avec Pompidou. Et j'ai découvert...
Ah, vous accompagnez...
Ah oui. J'étais à l'époque, si vous voulez, aujourd'hui, quand un candidat va faire le tour de France, il y aura 200 journalistes pour le suivre. À l'époque, on était plus modeste, il y avait à peu près une trentaine de journalistes. Mais moi, j'étais dans les 30 ou 35 journalistes qui ont suivi Pompidou tout au long de son voyage.
Et ça se passait en voiture ?
Non, ça se passait en avion, en train.
En avion, oui.
Mais l'avantage de ça, c'est qu'on découvrait Quand on est, parce que tous les soirs, on était dans les mêmes hôtels, les journalistes et le futur président, puisqu'il a été élu, le futur président de la République. Et Pompidou, tous les soirs, nous réunissait, mettait sa cigarette au coin des lèvres, et puis on parlait de la campagne. Tout. Ce qui fait que quand la campagne a été finie, que Pompidou a été élu, j'avais l'impression que que je connaissais très bien. Quoi. Je n'étais pas à tu à toi, mais je connaissais bien le président de la République. Quoi. Puis après, ça, c'était le premier, mais après, j'ai suivi tous les autres. Tous les autres jusqu'à Sarkozy, on peut dire. Après, j'étais devenu un chef, donc je n'allais plus faire la campagne. Mais... Donc voilà, c'est la politique. Mais tout s'est articulé, si vous voulez. Il y a eu mon envie d'être journaliste, mon admiration, mon père, Mendès France, la guerre, et puis cette possibilité d'entrer dans la radio, et puis de faire mon chemin dans la radio. Et puis un beau jour, la roue a encore tourné, et on a privatisé... On a privatisé TF1 et un de mes amis d'Europe 1 à l'époque, Étienne Moujotte, est devenu un des responsables de TF1. Et il m'a dit tout de suite, je compte sur toi, tu vas venir maintenant à TF1. Moi, je suis bien à Europe 1, j'aimais beaucoup la radio. C'est pas par hasard que je suis aujourd'hui encore sur une radio avec vous.
Je suis ravi que ça vous fasse plaisir.
J'ai toujours aimé la radio. La radio, c'est tellement le contact direct. Une voix, des gens qui vous écoutent. Ils sont chez eux, dans la cuisine, partout.
Quelqu'un qui écoutait, là qui... Non, j'ai cru.
En tout cas, si vous voulez, la radio, ça a toujours été... Quand on me demande, même après 20 ans de télévision qui ont suivi, je demeure un des fidèles de la radio. C'est tellement chouette, la radio.
Je suis heureuse que vous soyez heureux d'être devant le micro nouveau.
Oui. Et puis la radio, je vais vous dire une chose formidable. Quand j'ai commencé la télé, donc longtemps après, 20 ans après, parce que j'ai fait à peu près 25 ans de radio, la télé, le premier jour où j'ai fait un plateau à la télé, le lendemain, les gens m'ont dit « Ah, dis donc, ta cravate était de travers. »
Oh là !
Mais je me suis dit « Mais est-ce que c'est ça que les gens regardent ? Est-ce qu'ils regardent ? Est-ce qu'ils s'intéressent à ce que je dis ?» Ou est-ce qu'il s'intéresse à ma coupe de cheveux, au fait que j'ai ma cravate de travers, etc. Donc, si vous voulez, c'est deux mondes. La radio, c'est très proche des gens, je trouve. C'est plus proche des gens, c'est plus intime. La télé, c'est autre chose.
C'est le spectacle, déjà.
Oui, un peu, oui, bien sûr, c'était déjà du show, un peu. Bon, ça ne va pas empêcher d'en faire.
Mais maintenant, je souhaiterais qu'on revienne à... À la foi.
Oui.
À la foi. Qu'est-ce que c'est la foi pour vous ?
Écoutez, la foi pour moi, c'est quelque chose... J'ai jamais douté. Il y a des gens qui disent, moi je me suis converti, j'étais pas religieux, puis un beau jour. Moi, c'est venu naturellement. Je vous ai raconté tout à l'heure...
Les grands-pères.
La famille.
La grand-mère.
Moi, je me suis inscrit dans cette tradition... Et ça, elle me convenait bien. J'étais fier de mes ancêtres, fier de mon grand-père, de ma grand-mère, etc. Des travailleurs, des gens qui étaient en même temps cathos. Et je suis devenu cathos. J'ai pas travaillé pour devenir cathos. J'ai travaillé pour devenir journaliste, mais j'ai pas travaillé. J'étais spontanément, naturellement. Et donc, alors, à partir de là, j'avais pas envie d'être curé non plus. J'avais pas envie d'avoir une vie liée à l'Église, mais j'étais de la famille. J'ai toujours été un catholique traditionnel, comme des millions de gens à l'époque. Alors aujourd'hui, vous me direz, comme des millions de gens, c'est peut-être beaucoup de dire ça aujourd'hui, mais enfin. À l'époque, on pouvait dire ça. On pouvait dire, bah oui, les églises étaient pleines, elles étaient belles, elles étaient pleines. On ne pouvait pas sortir voir un village sans voir un calvaire. On ne pouvait pas aller dans une province sans voir des magnifiques bâtiments religieux. Moi, j'étais bluffé par tout ça. Les cathédrales, je n'ai même pas parlé des cathédrales. C'est tellement évident quand je vois que récemment, il y avait un jeune homme qui avait fait un acte héroïque et qui disait qu'il voulait voir toutes les cathédrales de France. C'est un rêve magnifique.
D'Anselme, il s'appelle.
Oui, c'est ça.
Je ne sais plus le prénom.
Oui, il était formidable. Ah, il a sauvé des...
Henri, je crois.
Henri d'Anselme.
D'Anselme, voilà. Bon. Ben, je me disais, quel beau projet que de vouloir visiter toutes les cathédrales de France. Et d'ailleurs, c'est tellement un projet qui m'a turlupiné que quand ma fille vit aux États-Unis, à New York, et elle vient en France me voir une fois ou deux fois par an, et la dernière fois, elle m'a dit « Papa, je crois que je voudrais quand même voir les cathédrales, parce que comme j'étais en France, mais faisais mes études, j'ai pas eu à part Notre-Dame de Paris, j'ai pas eu l'occasion de voir les grandes cathédrales. » Alors je lui ai dit « Ben, ça, c'est une bonne idée, c'est un beau projet. » Donc elle a commencé à aller voir les cathédrales. Elle est allée à Reims, elle est allée...
Vous l'avez accompagnée
à Chartres. Non, ben moi je pouvais pas, parce que j'avais encore... Oui. Puis j'avais ma femme malade à l'époque. Mais en tout cas, ma fille, je l'ai dirigée sur ce projet des cathédrales. Je trouve que si on veut connaître la France et qu'on a envie de voir, il faut faire, bon, il y a une quinzaine de cathédrales à travers le pays. Elles sont toutes tellement belles, et elles sont tellement révélatrices de ce qu'est notre
la
pays.
Foi.
Donc la foi, c'est ça pour
elle
moi.
Elle s'exprime dans les cathédrales.
La foi, c'est un peuple réuni autour d'une croyance dont j'ai jamais douté. Moi, je me suis jamais demandé si le bon Dieu existait ou pas. J'ai toujours été convaincu de l'existence de Dieu. J'ai toujours été... Bon, alors, c'est pas très original, ce que je dis. Mais c'est comme ça qu'on était chrétien. On était chrétien parce que on était dans une famille, on croyait, et on doutait pas. Alors, c'est peut-être idiot, il y a des gens qui doutaient, mais je les comprends. On peut douter, on a le droit de douter. Mais moi, j'ai jamais douté. Je me suis jamais demandé si, effectivement... Et quand ma femme est décédée l'année dernière, qui était catholique d'ailleurs, mais américaine, mais catholique, très catholique, même plus que moi, elle allait plus régulièrement à la messe que moi, je ne me suis jamais demandé si elle allait monter au ciel. Pour moi, c'était tellement évident qu'elle y était.
Qu'elle y est ?
Oui, qu'elle y était, je veux dire, qu'elle y montrait.
Oui.
En même temps qu'elle me quitterait.
Et est-ce que le fait d'avoir la foi vous a fait faire des choses que vous n'auriez jamais faites, vous a, en tant que journaliste, est-ce que la foi vous a influencé aussi?
Écoutez, là, c'est difficile à répondre
donner
à
donner du courage, des choses comme ça.
Je ne peux pas le dire, j'en sais rien. Je ne peux pas dire que... Quand j'avais peur, est-ce que je me suis dit « je vais prier le bon Dieu pour qu'il m'aide à m'en sortir ?» Ça peut arriver quand on est journaliste et qu'on est dans un endroit où on vous tire dessus, il y a des moments un peu difficiles. Oui, sûrement que la religion m'a... Mais oui, sûrement on pense au bon Dieu. Sûrement on pense et on fait une prière. Bien sûr. Ça m'est arrivé, oui. Quand on a peur, quand on a besoin de... Ou quand on perd quelqu'un, ou quand... Quand quelque chose de dramatique intervient, oui, forcément. Si on est chrétien, forcément. On l'est aussi dans ces moments-là.
Et alors, vous étiez... c'est l'impression que j'ai, vous étiez un homme de plutôt à gauche,
alors,
politiquement.
Sur la politique, je vais vous répondre.
Mais, et en étant toujours chrétien.
Ah, mais de toute façon...
Parce qu'il y a toute cette histoire... avec la laïcité, tout ça.
Oui, alors moi, si vous voulez, j'ai jamais mélangé véritablement la politique et la religion. Autant j'ai changé politiquement, je vais y venir en deux mots, mais j'ai changé politiquement quand j'ai estimé que les gens que j'avais soutenus en politique, qui étaient essentiellement dans les 40 premières années de ma vie, la gauche, j'étais de gauche, j'ai voté pour Mitterrand, par exemple, bon. J'ai voté pour Mitterrand, j'ai soutenu Michel Rocard, etc. Quand j'ai eu l'impression, ça c'était à peu près dans les années, après le premier mandat de Mitterrand, dans les années 85, 80, oui à peu près, j'ai eu le sentiment que les socialistes qui étaient au pouvoir, donc depuis le début, je n'y croyais plus, je ne pensais plus du tout qu'ils faisaient ce qu'ils avaient promis de faire. Et à ce moment-là, peu à peu, je me suis désintéressé. Deux, et j'ai glissé, alors certains diront que j'ai glissé à droite, ou que je me suis perdu à droite, mais en tout cas, effectivement, je me suis dit non, je me suis trompé. J'ai l'impression qu'effectivement, quelque part, j'étais devenu de gauche, non pas parce que j'étais fondamentalement quelqu'un de gauche, mais parce que j'étais dans un environnement qui était très à gauche. Tous mes copains à la fac, tout ça, tout le monde était de gauche. Comme aujourd'hui, on dirait tous les artistes, plus ou moins, sont à gauche. Bon, c'était un peu ça. Quand on est dans un environnement où il n'y a pratiquement que des gens de gauche, ben on finit par se dire, oui, pourquoi pas. Mais je n'étais pas finalement... En fait, je crois que... Si je dis, vous savez, comme on dit, parfois on disait ça pour les enfants, quand on est un gaucher contrarié, il y a des gens qui sont gauchers en termes de... Et à un moment donné, on dit, non, il faut les accompagner, il faut qu'ils apprennent à servir de leur main gauche et de leur bras gauche. Ou d'autres disent, il faut au contraire les...
De
les
leur faire, main droite. De leur...
Oui, oui, enfin, le contraire. Oui. Mais en tout cas, l'idée, c'est qu'il faut les contrarier, il ne faut pas les laisser partir. Ben moi, je crois que j'étais finalement quelqu'un de droite contrarié.
Un gaucher
non, parce qu'en fait, je n'étais pas de gauche véritablement, mais je l'étais devenu par une sorte d'imprégnation autour de moi. Et quand j'ai pu réfléchir un peu davantage, en vieillissant, et puis avec un certain nombre d'événements qui se déroulaient autour de moi, je me suis dit, mais au fond, je suis pas de gauche, moi, je suis droite. Je suis droite. Regardez ce qui se passe actuellement. On parlait tout à l'heure de la... Avec notre prêtre qui était au micro, on parlait de l'euthanasie, de la dernière mesure, le dernier legacy du président de la République. C'est abominable, l'euthanasie. C'est abominable. Et vous, comment est-ce qu'on peut être de gauche? Moi, je ne peux pas supporter cette idée qu'on puisse tuer quelqu'un. Qu'on puisse tuer quelqu'un au prétexte qu'effectivement, ça sera une bonne chose pour lui. Donc, je ne peux pas. Là, si vous voulez, c'est les fondamentaux. Pour un quelqu'un qui croit comme moi, c'est un acte fondamental. Je pense qu'il n'y a pas un catholique qui devrait être favorable à cette euthanasie, à ce meurtre, à cet assassinat. On va aller tuer un père, un grand-père, une vieille dame.
Oui, puis ça enlève toute confiance.
Absolument, toute et au médecin. Rendez compte, le médecin, comme l'a dit très bien d'ailleurs, je crois que c'est Philippe de Villiers qui l'a dit récemment, il dit, vous êtes malade, vous souffrez, vous êtes dans votre chambre, à l'hôpital ou ailleurs, et vous voyez le médecin qui rentre, la blouse blanche, vous le regardez, vous vous dites, le médecin va peut-être me donner quelque chose, ou il va me soigner. Et puis c'est pas vrai, c'est pas ça, le médecin il va arriver avec la seringue et il va me tuer.
Oui, parce que pour l'instant, il a des conditions qui sont posées avant...
Enfin, bien, si vous voulez ce projet...
On l'a vu avec les histoires de l'avortement aussi.
Oui, mais si vous voulez, c'est la pire des choses, je trouve que c'est... Que c'est...
Des conditions et les conditions...
Oui, non, mais les conditions,
elles
s'en
vont.
Exactement.
De change.
Si la loi, elle n'est pas encore ratifiée, mais si elle est votée définitivement, elle le sera, puisque a priori, il y a une majorité, hélas, pour la voter. Ça a bougé déjà. Ça a bougé, mais on va mettre des conditions, et puis peu à peu, on élargira le champ. C'est-à-dire qu'on dira au début, bien évidemment, on ne peut pas le faire pour des enfants, ou pour des... Et puis on arrivera à quoi? On arrivera à l'eugénisme.
Oui,
et sous prétexte de rendre service à l'humanité, on fera ce qu'ont fait les nazis.
Oui.
Est-ce que moi, catholique, je vais accepter ça? Ben évidemment non.
Voilà, c'est une position de la... C'est la foi,
ah oui,
qui
ça,
donne
c'est
une
la
position
foi
politique.
Ah, et c'est voilà pour ça que j'ai pris cet exemple, parce voilà, que c'est oui vraiment pour moi évident.
Bien, nous avons beaucoup parlé. L'émission va bientôt se terminer. Qu'est-ce que vous souhaitez nous dire en conclusion? Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire?
Ah ben d'abord, je vais vous dire que je suis très content d'être avec vous. Je trouve que
nous aussi.
C'est aussi le miracle de la radio, de Radio Courtoisie en l'occurrence, mais des micros de la radio, c'est que très vite, on est trois ou quatre autour d'un micro. On parle et on a l'impression qu'on est une bande de copains. Enfin, excusez-moi, avec tout le respect que j'ai pour vous, on a l'impression qu'on est une bande de copains et qu'on peut échanger sur tous les sujets sans s'engueuler, parfois en étant en désaccord.
Ah oui.
Hein, ça peut arriver. Oui, oui. Tout à l'heure, notre prêtre qui était là avec nous, bon...
Il est très malheureux.
Oui, j'ai senti qu'il était malheureux. J'avais envie de, à la fois envie de lui dire, écoutez mon père, c'est trop magnifique de pouvoir célébrer les nouveaux catholiques, etc. Ne nous enquiquinez pas avec des histoires de chapelles qui se disputent entre...
Mais lui, il est déchiré.
Oui, mais bon, oui. je respecte son déchirement, si vous voulez. Il ne faudrait pas que ça nous fasse prendre que le renouveau de l'Église, qui est, je pense, actuellement un phénomène réel, le vrai renouveau.
Et ça, là, c'est la grande espérance.
C'est la grande espérance. Il ne faut pas qu'il soit troublé par des petites bisbilles entre des groupes de cathos qui ne sont pas d'accord sur Vatican II. Ne refaisons pas Vatican II.
Voilà. Merci Gérard, je tenais vraiment à vous remercier, j'étais heureuse de vous avoir rencontré, Jésus d'amis communes, et puis je voulais remercier Nathalie, toujours présente et efficace, et puis Aline de l'autre côté de la vitre, que je remercie aussi, et je termine les émissions comme le terminait Jean-Christaki de Germain, en vous disant que Dieu nous garde.
Que Dieu nous garde, et merci à vous.
Vous venez d'entendre Le Monde de la Foi, dirigé par Nicole Pilorge, assistée de Nathalie, diffusé en direct sur Radio Courtoisie de 21h30 à 23h et réalisé par Aline. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal, commander le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.